Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, qu'est-ce qu'un vrai journaliste ? Mais comment faisaient les journalistes avant pour s'engueuler entre eux, avant l'invention de Twitter ? Le réseau social est devenu le réceptacle des débats internes à la profession, comme par exemple le week-end dernier avec le cas Taha Bouhafs. Taha Bouhafs est reporter pour le site Là-bas si j'y suis. Le 11 juin dernier, il est interpellé alors qu'il couvre une manifestation de soutien à des travailleurs sans papier dans le Val-de-Marne. Garde à vue, téléphone confisqué. Une vingtaine de sociétés de journalistes de médias, dont celle de France Culture, publient une tribune pour dénoncer cette interpellation. Tribune en soutien aux journalistes, Taha Bouhafs. Et c'est la mention journaliste qui provoque le débat sur Twitter. Pour certains, ce titre est usurpé. Bouhafs ne serait qu'un militant politique, par ailleurs coupable d'avoir propagé une rumeur en avril 2018 lors de l'évacuation de la fac de Tolbiac à Paris par les forces de l'ordre. Ses partisans rappellent au contraire que ce sont ces images qui sont à l'origine de l'affaire Benalla, que par ailleurs, le fait d'avoir une carte de presse n'est pas une condition sine qua non pour se dire journaliste. Alors ce débat est intéressant dans la mesure où il interroge beaucoup plus largement le périmètre et la nature d'une profession fragilisée comme jamais. Alors qu'est-ce qu'un vrai journaliste ? Bien sûr, Aymand, nous avons de vrais journalistes autour de cette table ce soir. Faïsa Zerwala, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Mediapart, vous y êtes en charge des questions d'éducation, coprésidente de la SDJ, la Société des journalistes de Mediapart, SDJ qui fait partie de la vingtaine de sociétés de journalistes et de rédacteurs, donc je le disais avec celle de France Culture, à avoir signé cette tribune de soutien à Taha Bouhafs. Pour discuter avec vous, Pablo Ecoel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste pigiste ou journaliste indépendant, on dit les deux en général, oui. De plus en plus
journaliste
indépendant.
Rémunéré à la pige. Journaliste quand même.
Vous êtes membre du bureau national du SNJ-CGT, SNJ Syndicat National des Journalistes, membre de l'association Profession Pigiste qui organise les 48 heures de la pige. Ce sera à Rouen les 27 et 28 juin prochains. Troisième invité, Ariane Chemin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Monde, connue notamment pour être celle qui a révélé et enquêté justement sur cette affaire Benalla. Vous avez publié, entre autres, chez Robert Laffont l'an dernier, toute une époque, un recueil de vos reportages. Et puis je signale également une longue interview que vous donnez dans le dernier numéro de Society, hebdomadaire, magazine dans lequel vous expliquez quelle est votre vision, votre conception du journalisme. Et puis notre quatrième invité, Alexis Lévrier, bonsoir.
Bonsoir.
Historien des médias, maître de conférence à l'Université de Reims. Le contact et la distance, le journalisme politique au risque de la connivence. C'est un ouvrage que vous avez publié au Petit Matin et c'était en 2016. Alors Faïsa Zerwala, puisque la Société des journalistes de Mediapart que vous co-présidez est une des signataires de cette tribune en soutien aux journalistes Taha Bouhafs, pour quelles raisons est-ce que ces sociétés ont choisi de soutenir ce reporter de manière publique ? Est-ce que c'était pour exprimer justement la solidarité de la profession ?
Tout à fait. Ce qui nous a interpellés dans cette affaire, c'est vraiment le fait que Taha Bouhafs soit en train de réaliser un reportage, qu'il est salarié d'une entreprise de presse reconnue par la profession. Il est donc arrêté par la police. Il est victime de violences, sachant qu'il a une épaule démise et des arrêts et un arrêt de travail consécutif à cette interpellation. Et ce qui est un élément supplémentaire, on lui confisque son téléphone. Téléphone qui, aujourd'hui, pour un journaliste, est un outil de travail indispensable, dans lequel il a ses contacts, ses travaux en cours. Et pour nous, c'est une atteinte au secret des sources qui est l'une vraiment des pierres angulaires de notre profession. Lorsque vous parlez à un journaliste, vous êtes protégé par le secret des sources. Le journaliste ne doit pas révéler que vous l'alimentez en informations diverses et variées. Et pour nous, c'est vraiment ça qui motive ce soutien. Parce que depuis quelques mois, les sociétés des journalistes, on se rend compte qu'on doit écrire de plus en plus de communiqués analogues en soutien à des confrères et des consoeurs qui sont empêchés de faire leur travail.
Alors justement, suite à la publication de cette tribune, vous, Alexis Lévrier, sur Twitter, j'évoquais ce débat passionné le week-end dernier, ça continue d'ailleurs encore un petit peu, mais vous avez publié une série de tweets pour dire notamment que pour une fois, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec la vingtaine de sociétés de journalistes qui reconnaissent donc ce reporter comme un des leurs, comme un confrère. Pour quelle raison ?
Son cas me paraît un peu différent de celui de Gaspard Glantz, dont on a beaucoup parlé dans les derniers mois, qui avait aussi fait l'objet d'une interpellation. Alors, je condamne cette interpellation.
Qui a fondé Taranis News, voilà, qui suit beaucoup les mouvements sociaux.
C'est ça, qui est aussi un reporter très engagé, très militant, mais qui a une expertise et surtout une expérience. Taranis News, ça a été fondé en 2011. Et c'est quelqu'un dont le travail journalistique est reconnu, même si c'est par ailleurs un journaliste très militant.
Voilà, qui a été lui aussi interpellé, qui a eu le soutien d'un certain nombre de sociétés de journalistes. Voilà, juste pour.
Exactement, en même temps qu'un autre journaliste qui s'appelle Alexis Craland, je crois. Donc il y a un contexte, et là je vous rejoins tout à fait, de violence contre les. De brutalité policière contre les journalistes, d'interpellation avec souvent, et là c'est ce qui s'est passé pour Tahabou Hafs, on a pris son téléphone, donc son outil de travail. Donc tout ça, il faut le condamner évidemment. Simplement, c'est sur son statut de journaliste qui me paraît très récent. Jusqu'à il y a peu, il était uniquement militant et pas à la fois journaliste et militant. Et il a été embauché par la base CGSU, je crois, début 2019 ou toute fin 2018. Et son travail journalistique n'en est qu'à ses débuts. Daniel Mermet, donc, qui dirige la base CGSU et qui a répondu aux questions de Check News, c'est un papier qui est paru aujourd'hui, dit lui-même c'est un journaliste en formation. Et je cite,
il va falloir... Quand on est un journaliste en formation, on est moins journaliste qu'un journaliste aguerri.
C'est quelqu'un qui, par ailleurs, comme militant, avait pu avoir des débordements, qui a contribué à une fake news, on en parlera peut-être, et qui a pu être violent, qui a pu inciter, même dans son travail de journaliste début mars à Grenoble, au moment d'émeutes, au moment de la mort de deux jeunes, il a incité par des tweets la population à se rebeller contre la police. Bon, est-ce qu'on peut, en tant que journaliste, rendre compte objectivement, ou en tout cas avec un respect de la vérité, d'actes qu'on a soi-même contribué à engendrer? Puisque là, il appelait à la révolte, et après, effectivement, il y a eu des émeutes. Donc je trouve que sa légitimité journalistique est récente. Je ne dis pas qu'il a 22 ans, il faut quand même avoir conscience de ça, et je lui souhaite une longue carrière journalistique. Simplement, Daniel Mermet, je vous le disais, lui-même dit qu'il va falloir qu'il mette de côté ses émotions et qu'il fasse un véritable travail journalistique. Donc c'est un journaliste en devenir, pour moi, et son travail n'a pas la même légitimité que celui d'autres journalistes militants.
Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Alexis Lévrier ou plutôt d'accord avec Faïza Zerwala, Pablo Ecuel?
Non, plutôt d'accord avec Faïza. Je veux dire, en France, le journalisme est défini par la loi. Et il y a certes des lectures qu'on peut avoir en tant que lecteur, en tant qu'historien, etc. Mais la loi, elle est précise. Celui qui est journaliste, et celui qui est rémunéré pour son travail de journaliste.
Je vais même lire la définition précise dans le Code du travail. Et journaliste professionnel, toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse et qui en tire le principal de ses ressources. C'est ce que les journalistes, d'ailleurs, mettaient jusqu'à récemment aussi sur leur déclaration de revenus pour justifier la déduction fiscale. Donc, je vous laisse poursuivre, Pablo Ecuel.
Oui, je trouve que la France est un des pays qui a une définition la plus large de ce que c'est un journaliste. Je reviens d'une des rédactions pour lesquelles, la principale rédaction pour laquelle je travaille, et il y a des iconos, des SR, des maquettistes, tout un plateau technique qui est excellent et que je salue, ils sont tous journalistes. L'année dernière, on a travaillé avec Le Monde sur des réfugiés à Vichy. Notre traducteur est rémunéré en tant que traducteur journaliste. Les gens ne se rendent pas compte que le journaliste n'est pas que celui qui parle à la radio, qu'on voit à la télé. Il y a 35 000 journalistes en France. Il n'y a pas 35 000 Tintins qui se baladent.
Mais ce que critique Alexis Lévrier, c'était non pas tant le fait qu'il puisse y avoir une diversité de formes de journalistes, que plutôt que cette proximité avec une action militante qui a pu être problématique à un moment donné. Alors, ce que vous disiez d'ailleurs par rapport aux fake news, c'était le fait d'avoir propagé, d'avoir été un de ceux qui ont propagé l'idée qu'il y avait un blessé très grave, voire un mort, lors de l'intervention de la police à la fac de Tolbiac. Oui, Faïza Zerwala.
Mais à l'époque, justement, il n'est pas journaliste.
À l'époque, il n'est pas journaliste.
Ce qui fait quand même toute la différence. Il est encore très jeune. Et dès lors qu'il, encore une fois, qu'il est salarié d'un média, qu'il fait du reportage. Quand il est arrêté là, devant le centre Chronopost, par la police, il n'est pas en train de jeter des pierres sur les policiers, il est en train de filmer une action militante.
Et c'est pas la version des policiers. C'est pas la version des policiers, moi j'en sais rien, mais c'est contradictoire.
Cela dit, même si évidemment c'est notre point d'entrée dans la discussion, on ne va pas faire toute l'émission sur Tahabou Hafs, ne serait-ce que parce que si on le faisait, on l'aurait quand même invité, ça serait la moindre des choses. Il a d'ailleurs l'occasion de s'exprimer dans d'autres médias. Mais juste un mot à Ariane Chemin, puisque dans l'interview que j'évoquais à Society, IT partie. À un moment donné, vous parlez de ce reporter. À la fois, vous dites qu'il bouscule un journalisme un peu endormi, mais faites le constat qu'il ne fait pas d'enquête, pas de contradictoire. Est-ce que ça veut dire qu'à la fois, c'est de nouvelles formes qui dérangent un petit peu peut-être le métier que l'arrivée de ces journalistes, alors journalistes citoyens, reporters, qui suivent beaucoup les mouvements sociaux?
En fait, on s'est rencontrés avec les deux journalistes de Society avant cette histoire, Tahabouaf. Si on a parlé de ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne. D'ailleurs, on avait été aux assises du journalisme de Tours, on avait organisé exprès un débat avec tous ces nouveaux journalistes qui se disent soit militants, soit... Il y avait Gabin Formont qui était là. D'ailleurs, c'était très houleux et très difficile de discuter. Et ce que je trouve intéressant, au fond, c'est que on est dans une époque où tout se réinvente. Et on voit bien que s'il y a ces débats qui naissent entre nous, etc. Et d'ailleurs, je salue quand même Alex Lévrier, il a une forme de courage, parce que c'est très difficile aussi hein, de critiquer. On a vécu quand même pendant ce week-end une sorte d'assignation à si vous ne dites pas tout haut, tout fort, si vous ne faites pas un tweet en soutien à Tahabouaf, vous êtes un traître. C'est quand même plus compliqué et c'est normal qu'on ait des débats. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus normal que tout est mouvant et que justement le journalisme se réinvente parce que la réalité change très vite, parce que le monde change très vite. Et c'était ça le sujet de discussion avec Society. Effectivement, je parlais de Tahabouaf, ce qui a filmé de fait le tabassage d'un jeune couple place de la Contrescarpe. Et ces images ont été un appui, évidemment, pour tous les enquêteurs.
Mais ça ne... Sur l'affaire Benalla.
Sur l'affaire Benalla. Mais ce n'est pas grâce à ces images qu'on a révélé l'affaire Benalla. D'abord parce que, c'est vrai, je le disais, je me suis forcément, c'est normal, un peu méfiée, parce que il y avait eu le précédent avant de Tolbiac, et parce que par ailleurs, j'avais regardé le signataire, et c'est vrai que Tahabouaf, ça avait été candidat aux élections législatives quelques mois avant, et moi je fais partie des gens, mais ça vaut pour tout le monde, qu'à partir du moment où on est dans le monde politique, on devient journaliste, on peut rester journaliste, mais on peut pas faire des allers-retours entre le journalisme et le monde politique, ça c'est pas possible. Enfin, je pense que c'est quand même quelque chose de commun. Voilà. Donc je disais, merci Tahabouaf pour ces images, mais néanmoins, il y a une place pour chacun, c'est-à-dire que Tahabouaf, il filme, mais après, il pense que c'est un policier, donc il faut bien qu'il y ait d'autres personnes qui aillent faire du contradictoire et qui aillent chercher qui est cette personne qui porte le casque et qui est, de fait, en fait, qui n'est pas un policier, mais un conseiller de l'Élysée. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais je disais, il faut le tout pour faire un monde journalistique et... C'est vrai qu'il y a différentes formes de journalisme et qu'on voit apparaître ces reporters, ces journalistes citoyens, ces observateurs, un peu comme on peut avoir des observateurs dans une élection quand on a peur qu'elle ne soit pas très démocratique. Eh bien là, ils sont d'une certaine manière engagés, ces observateurs, parce qu'ils veulent que la démocratie soit respectée. Eh bien, il y a aussi des vidéastes qui ont cette fonction-là.
On peut être observateur sans être pour autant journaliste, Pablo Ecuel. C'est-à-dire, à partir de quel moment vous feriez la délimitation entre ce qui relève justement de l'observation, qui peut servir ensuite le travail des journalistes. De toute manière, quand on va rechercher des sources, on se base bien sur des témoignages. Donc c'est une forme de témoignage peut-être beaucoup plus enrichi grâce à la valeur des images, mais on n'est pas forcément journaliste. À quel endroit vous placez la frontière? C'est la formation? C'est le fait d'être rémunéré par une entreprise de presse, c'est quoi?
Oui, la frontière légale, elle est là. Après, moi, je voudrais dire que il y a un rapport d'information quand on a envie de donner une information. Et ce qui est intéressant aussi, notamment avec le journalisme, notamment en France, mais dans plein d'autres pays, c'est que il n'y a pas une formation obligatoire. On peut aussi apprendre sur le tas. Et on n'est pas le premier pays dans lequel des gens découvre le journalisme en essayant d'aller couvrir des manifestations. C'était le cas en Biélorussie il y a une dizaine d'années, Svetlana Alekseevich en parlait. Quand nous sommes allés avec la Fédération Européenne des Journalistes à Minsk il y a un an et demi, j'ai rencontré des jeunes journalistes aujourd'hui qui m'ont dit « j'ai commencé en couvrant des manifs ». Et ça m'a donné envie de faire du journalisme ensuite. Le militantisme, où est-ce qu'on met la barrière? Est-ce que... Christophe Barbier, est-ce que plein d'autres journalistes qui ne vont pas vérifier ou prendre, est-ce qu'ils prennent l'avis des chômeurs quand ils donnent un avis sur les chômeurs?
Donc, c'est marrant, j'étais persuadé que vous alliez parler de ce cas. Alors, juste pour les auditrices et les auditeurs, il a fait un édito, il fait régulièrement des éditos, je crois que c'est sur BFM, suite à la réforme de l'assurance chômage, voilà. En disant que, de toute manière, cette réforme-là, elle ne pourrait pas être efficace parce que le système actuel n'est pas assez violent avec les chômeurs. Alors là aussi, voilà, ça a suscité beaucoup de réactions. Là, vous considérez qu'il y a à la fois journaliste et militant quand il dit ça?
Sans doute. Je n'ai pas l'impression qu'il soit allé discuter avec beaucoup de chômeurs pour vérifier aussi l'autre côté de la médaille et des opinions.
Mais alors tout à l'heure, Alexis Lévrier, à propos de Tahabouaf, vous disiez à l'époque, quand il y a cette affaire à Tolbiac, et puis quand il récupère les images de la contre-escarpe qui va donner lieu à cette affaire Benalla. Il était militant, il n'était pas encore militant et journaliste. Ça veut dire qu'on peut être militant et journaliste ?
Bien sûr. Bah, François Ruffin, en ce moment, il est homme politique. On peut remonter à Clémenceau, à Jaurès.
François Ruffin, il est encore journaliste pour vous ?
Il a des liens avec Fakir qui sont évidents. Donc je ne pense pas. Ce qui, à mon avis, définit le journalisme, déjà, il faut avoir l'idée que, historiquement, c'est une définition qui est floue. J'ai un de mes confrères du CELSA qui parle de professionnalisme du flou à propos du journalisme. C'est une profession qui s'est constituée comme ça, c'est-à-dire avec souvent des gens qui viennent d'autres domaines et qui vont appartenir au journalisme. Il faut avoir donc une définition ouverte, je suis tout à fait d'accord avec Pablo de ce point de vue-là.
Simplement, dans le Code du travail, elle l'est assez ouverte. Hein. D'autant qu'en plus, il y a eu une décision de la Cour de cassation qui l'a peut-être ouvert encore davantage.
Mais pour autant, il faut résister au relativisme qui consisterait à dire que tout le monde peut être journaliste et que par ailleurs, ce que j'entends là quand même, tous les journalistes seraient des militants. Ça, je crois que c'est dangereux. Il y a un journalisme des faits, c'est celui d'Ariane Chemin, c'est celui d'ailleurs de Mediapart également. Et ce journalisme-là, il me paraît, c'est ça la quintessence de la presse, c'est-à-dire c'est le rapport à la vérité. Si le journalisme a un rôle, c'est ça, c'est de dire la vérité, dire ce qui est. Et quand il manque à ça, eh bien, il faillit dans toute sa globalité.
Alors, Faïsa Zerwala et ensuite Ariane Chemin.
Je pense qu'il y a aussi un élément qui rend le débat difficilement compréhensible pour les gens qui ne sont pas journalistes, c'est cette question de la carte de presse. La carte de presse, finalement, ne fait pas le journaliste. Mais elle est de plus en plus demandée comme un sésame. Par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller à une conférence de presse dans un ministère si vous n'avez pas de carte de presse. Et je pense que ce qui contribue à brouiller un peu la frontière entre qui est journaliste, qui n'est pas journaliste, c'est cette question de la carte de presse, parce que souvent, des gens peuvent répondre « Oui, mais il n'a pas de carte de presse, il n'est pas journaliste. » Or, les choses sont plus compliquées que cela, parce que pour obtenir la carte de presse, il faut tirer son revenu principal du journalisme et être payé en salaire, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises de presse qui rémunèrent parfois leurs journalistes pigiste, freelance, en auto-entrepreneur.
Mais pour le coup, la logique, elle est plutôt du côté de ceux qui font le constat de cette bizarrerie qui est le fait qu'on peut être journaliste sans avoir la carte de presse. Ce serait quand même beaucoup plus simple si le statut de journaliste ne pouvait être attribué qu'à partir du moment où on vous donne aussi la carte de presse. Ça clarifierait sans doute les débats, même si je sais que c'est un vieux débat dans cette profession. Ariane Chemin.
Oui, Tahabouaf, il va avoir sa carte de presse et il est journaliste. Il travaille pour la base, j'y suis. Il est journaliste. Simplement, après le débat, il faut le faire. Peut-être, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Faïsa, mais il y a d'autres choses qui unissent les journalistes. Ce sont des valeurs. Mm-hmm. Et les valeurs, moi, j'ai besoin de partager des valeurs avec les gens que je défends. Donc, les valeurs, c'est quoi ? C'est effectivement rechercher la vérité. Moi, personnellement, je suis peut-être très vieux jeu, mais l'insulte, ça ne me va pas. Je suis désolée, les insultes sur les réseaux sociaux. Vous parliez de Twitter, mais Twitter est devenu un instrument de journalistes. Au fond, il n'y a plus de vrais gens sur Twitter. C'est devenu un truc où tout le monde s'engueule.
Et d'ailleurs, preuve que
le journalisme évolue. Et c'est une bonne chose. Nous, il y a beaucoup de sociétés de journalistes. Il y a beaucoup de journaux, le New York Times, mais aussi Le Monde, où on réfléchit à des chartes. Et notamment, comment les journalistes peuvent-ils s'exprimer sur Twitter. C'est une réflexion que nous avons. Donc ça prouve que c'est mouvant et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant chez Tahabouaf, c'est qu'il représente une nouvelle génération de journalistes. Et ça, il n'est pas question de dire « Non, mais c'était mieux avant et nous, on n'a pas besoin de faire ça. » Après tout, David Dufresne, qui a quand même beaucoup contribué à révéler les violences policières, eh bien, heureusement qu'il était là, parce que je dois dire que les vieux médias, y compris d'ailleurs, peut-être des sites d'information, etc., ils ont été en retard.
Est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs un vrai retournement aujourd'hui qui fait que ces journalistes indépendants ou qui travaillent pour des médias dits indépendants figurent presque aujourd'hui justement ce qu'on essaie d'appeler les vrais journalistes aujourd'hui. En tout cas, c'est la question qu'on pose ce soir. C'est-à-dire plutôt que des journalistes qui travaillent pour des grands médias, alors soit les grands médias publics. On nous dit de temps en temps, mais oui, mais vous êtes public, donc c'est que vous êtes à la solde de l'État. Soit quand on est dans des grands médias privés qui sont détenus par quelques hommes d'affaires richissimes. Et finalement, c'est du côté du journalisme indépendant que seraient les véritables gardiens du journalisme, Pablo Ecuel.
Bah, c'est un peu le lecteur qui décide et qui choisit. En démocratie, il y a une pluralité, un pluralisme de choix, de ce qu'on veut lire, regarder et écouter. Moi, je trouve que c'est très pertinent ce que dit Faïza sur la carte de presse et la complexité. Et là, on a une particularité en France, c'est que la carte de presse est donnée par une commission paritaire où il y a le patronat et les syndicats. En tant que représentant syndical, je peux vous dire que même en Suisse, ce sont que les syndicats qui donnent la carte de presse. Dans d'autres pays, ce sont les médias qui donnent la carte de presse. Que les médias soient indépendants, qu'ils soient comme Mediastream, etc. Tout le monde peut être journaliste à partir du moment, et Ariane a raison aussi, où on respecte une charte éthique. D'ailleurs, la Fédération internationale de journalistes vient de voter à Tunis la semaine dernière une nouvelle charte éthique mondiale qui se renouvelle avec cette question de réseaux sociaux et tout ça.
Une idée un peu saugrenue me vient là, à l'évocation de la façon dont est attribuée la carte de presse, puisqu'il est beaucoup question depuis quelques années de démocratie citoyenne, façon d'impliquer justement. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui travaille le monde des médias aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait aussi un collège des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs qui participent à l'attribution des cartes de presse en disant, bah ok, il y a les patrons de presse, il y a les journalistes, et puis il y a les lecteurs qui diraient aussi, bah voilà, oui, ok, un tel est journaliste. Alexis Lévrier, je me tourne du côté d'historien.
Je sais pas, parce que ça me paraît complexe à mettre en place. Il faut surtout accepter l'idée que c'est pas parce qu'on a qu'on n'a pas de carte de presse qu'on n'est pas journaliste. Et d'ailleurs, si on se fie à ça.
Parce que ça peut participer aussi de ce sentiment d'une profession très corporative, c'est-à-dire qui serait la seule à même de décider ce qui est bien et ce qui n'est pas bien.
Oui, et donc c'est pour ça qu'il est très bon, Ariane Chemin le disait, qu'il y ait de nouveaux profils qui émergent. Et c'est souvent le cas, historiquement, lors des périodes insurrectionnelles, les médias institutionnels, les médias dominants vont être bousculés par l'apparition de nouveaux journalistes qui revendiquent une prise de parole plus directe, plus engagée, plus polémique. Donc ce qui se passe aujourd'hui me paraît tout à fait normal, hein, si on l'inscrit dans une histoire longue des médias, et pas du tout inquiétant. Simplement, il faut résister à la tentation, je disais, du relativisme, aussi de l'horizontalité. Tout le monde n'est pas journaliste, et on voit bien qu'on revient avec la presse numérique aujourd'hui d'une illusion qu'il y a eu au début de l'ère numérique, qui est était que finalement le lecteur et le journaliste étaient sur un pied d'égalité, ce qui fait qu'on mettait d'ailleurs, sur tous les sites ont fait cette erreur-là, de mettre la parole du lecteur à égalité pratiquement avec celle du journaliste. Et non, le journalisme c'est un métier, c'est une éthique, c'est des valeurs, on le disait, c'est une expérience, et ce que disent les lecteurs n'a pas la même valeur. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de dialogue entre les journalistes et leurs lecteurs, mais c'est un vieux mythe de l'histoire de la presse, hein, puisque le courrier des lecteurs il apparaît très tôt, il apparaît dès la fin du XVIIe siècle dans les journaux, et très tôt les lecteurs ont voulu être les égaux des journalistes, ont voulu concurrencer les journalistes. Et c'est comme ça qu'on produit beaucoup de fake news. Et même que les journalistes en arrivent à se tromper. Il y a dans l'histoire récente, même l'AFP s'est trompé en annonçant la mort de Martin Bouygues parce qu'il s'est retrouvé en concurrence frontale avec des simples utilisateurs de smartphones qui peuvent aussi produire de l'information. Donc je crois qu'il faut défendre la légitimité du journalisme. Le journalisme et son lecteur, ce sont deux réalités différentes et tout le monde n'est pas journaliste, ça c'est tout à fait faux.
Vous en pensez quoi, Ariane Chemin, de mon idée d'élargir?
Me revenait à l'esprit, je pense que c'était en 2003 ou 2004, vous savez qu'il y avait eu cette grande canicule en France, on avait mis tous les journaux avaient mis beaucoup de temps à réagir et à comprendre qu'il y avait des personnes âgées qui étaient en train de mourir, parce que c'était la fin d'un ancien monde du journalisme d'une certaine manière. Les seuls qui avaient compris, c'était le Parisien, parce qu'ils avaient beaucoup de correspondants sur place, etc. Donc là, on voyait que ça n'allait plus, qu'il fallait renouveler le journalisme tel qu'il existait. En revanche, sur l'idée de que tout le monde soit journaliste, etc., c'est très dangereux, parce qu'on est dans une période pas du tout rationnelle, où les gens ont envie d'entendre des choses qui ne sont pas vraies. Alors, d'une certaine manière, l'inconscient, il parle. Quand on dit qu'il y a eu un mort à Tolbiac, c'est peut-être parce qu'on a envie qu'il y ait un mort à Tolbiac. Vous voyez, c'est très compliqué. Donc il faut faire très attention à ça, effectivement.
Y compris d'ailleurs peut-être quand on est journaliste.
Oui, donc c'est un exercice auquel on se livre tous les jours, à penser contre soi-même. Et je pense qu'il faut faire très attention aux deux. Et la période n'est pas favorable au journalisme, mais elle n'est pas favorable non plus à toutes ces personnes qui voudraient défendre absolument le journalisme citoyen. C'est ce que disait d'ailleurs Alexis. Si tout le monde est journaliste, il n'y a plus de journalisme.
Je voulais juste apporter une légère nuance. Bon, je prêche un peu pour ma paroisse, mais nous, à Mediapart, on a quand même cette plateforme de blog qui est très importante pour nous, parce qu'on dit toujours Mediapart marche sur deux jambes. Évidemment que la question n'est pas de dire tout le monde peut être journaliste, mais nous, on est très contents d'avoir dans ce qui s'appelle le club des témoignages. Par exemple, moi, dans le secteur que je couvre, je suis très heureuse d'avoir des témoignages d'enseignants mobilisés contre les réformes dans l'éducation nationale. C'est des choses que je n'ai pas forcément le temps de traiter. Donc, je suis contente que ça existe quelque part, que des profs de terrain fassent remonter des informations. Parce que dire que le journaliste, voilà, est est plus légitime. Évidemment, le journalisme, moi, je reste profondément convaincue que, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un métier qui s'apprend, que ce soit à l'école ou sur le terrain. Mais c'est un métier qui est régi par des règles déontologiques et de méthodes de travail très précises. Donc ça, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table. Mais par ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas. L'exemple frappant, l'exemple récent, c'est la pitié salpêtrière. Cette attaque relayée par Christophe Castaner, qui ensuite est reprise dans différents journaux.
Bah, tous, pas dans Le Monde.
Bravo Le Monde, bravo Mediapart.
Les décodeurs en quelques heures.
D'autres qui ont attendu d'avoir des remontées de terrain ou de se dire, qui ont eu la présence d'esprit de se dire, attendez, on va peut-être ralentir, quitte à paraître un peu plus tard, on va quand même bien vérifier cette histoire. Et donc ça montre que voilà, la réalité est toujours plus complexe et mouvante.
Ça veut dire qu'un vrai journaliste, ça sera un journaliste qui a aussi les moyens de prendre le temps de vérifier les informations. Or, on sait bien qu'on est dans un écosystème qui aujourd'hui, majoritairement, ne laisse pas ce temps-là. C'est très compliqué.
C'est des choix.
Mais au-delà de ça, c'est aussi un positionnement. Moi, je vais aller là dans le sens d'Alexis Lévry. Comment on se place face à une situation, une information? Quand j'ai des étudiants en journalisme à Vichy, je leur dis, il y en a beaucoup qui veulent être journalistes sportifs, et je leur dis, dans un stade, les fans et les journalistes ne sont pas au même endroit. Vous ne vous placez pas à la même place. Le fanatisme n'est pas un journalisme. Donc le fanatique ou le fan ou le supporter ne peut pas être journaliste parce qu'il n'est pas placé au même endroit dans le stade, comme le footballeur, celui qui joue, ne voit pas de la même manière le match, l'arbitre ne voit pas de la même manière le match. Si vous voulez être journaliste, il va falloir changer de place et cesser d'être supporter pour devenir journaliste et à ce moment-là regarder tout le stade, regarder les joueurs, regarder l'arbitre, regarder les deux équipes. Un journaliste, peut-être qu'un supporter ou un lecteur ou un militant peut devenir journaliste à un moment donné, mais il faut, comme tu disais, penser
contre soi-même,
vérifier des informations. Et on peut être
confronté aussi ce que une source nous raconte.
Exactement.
Pour vous, s'il y avait quelque chose sur lequel il fallait travailler de manière peut-être plus importante que ça ne l'est aujourd'hui, ça serait quoi? Ça serait sur la formation des journalistes. Alors, il y a beaucoup d'écoles, des écoles reconnues, je ne sais plus combien il y en a. 14 maintenant, écoles reconnues, plus toutes les formations
non reconnues,
qui peuvent être des formations d'ailleurs universitaires, des écoles payantes. Est-ce que c'est là-dessus qu'il faudrait travailler ou bien est-ce que ça serait sur la régulation de la profession, c'est-à-dire d'avoir une instance? Alors, on parle depuis longtemps de ce conseil de déontologie, verra-t-il le jour ou pas, peut-être, mais qui pourrait au moins être une instance d'interpellation de la part du public pour dire, bah voilà, nous, on n'est pas d'accord avec ceci, avec cela. Alexis Lévrier.
C'est l'universitaire qui parle, mais je crois beaucoup à la question de la formation. Et effectivement, on a un vrai problème de ce point de vue. Il y a 14 écoles reconnues qui toutes sont tout à fait respectables.
Alors, c'est terrible de se dire, il y a beaucoup d'écoles et il y a un problème de formation.
Oui, parce que beaucoup sont payantes et lorsqu'on observe les profils qui en sortent, sociologiquement, ils sont peu variés. On a beaucoup de journalistes à la sortie de ces écoles, dont on découvre qu'ils sont blancs et venus des beaux quartiers, pour dire les choses clairement.
Oui. On le découvre assez vite, Enfin, voilà, moi, je m'en suis rendu compte très très vite en arrivant à l'école et en étant la seule d'origine.
Il y a un énorme problème de ce point de vue-là.
Voilà, d'origine modeste.
Je suis dans une fac de province, une fac plutôt avec des étudiants qui viennent, parce que c'est pas forcément la couleur de peau, ça peut être simplement l'origine sociale. Et je vois à quel point il y a un phénomène d'autocensure, ils n'osent pas passer ces écoles-là. Alors, c'est pour ça que je défends beaucoup, moi, un dispositif qui s'appelle la chance au concours, maintenant il s'appelle uniquement la chance, et qui est destiné aux boursiers et qui leur donne une prépa gratuite d'un an qui leur permet de passer les écoles de journalisme dans d'excellentes conditions. Chaque année, des des étudiants qui en profitent. Et ça permet à des enfants venus de quartiers défavorisés d'accéder à un métier qui leur paraît au départ très très loin d'eux. Donc je crois que là, c'est un véritable enjeu à venir, c'est qu'il faut rapprocher la formation des journalistes de la population dans sa globalité, dans sa diversité.
Et de mémoire, Alexis Lévrier, c'est dans votre livre, il me semble que vous releviez notamment cette incongruité d'avoir une école de journalisme de Sciences Po, qui est à la fois un lieu de formation des élites politiques et économiques, qui est le même, même si les locaux sont pas tout à fait les mêmes, et des journalistes, qui fait que cette proximité qui est très souvent reprochée justement aux journalistes, et ben elle se retrouve incarnée.
Sciences Po a évolué quand même. Sciences Po évolue. Le problème c'est que j'y enseigne depuis l'écriture.
Ah c'est pour ça, oui. Donc,
mais j'observe quand même.
Ils n'ont pas été rancuniers.
Ils ont fait des campus en province et ils ont intégré des classes de ZEP.
Faïsa Zerwala.
Oui, moi je voulais rebondir. Donc effectivement, la chance pour la diversité dans les médias, moi dans laquelle j'interviens et par laquelle je suis passée. Ce dispositif effectivement est très très important. Mais le problème, moi, que j'identifie, c'est pas tant la formation, c'est après. Lorsque vous sortez d'école de journalisme, il y a quand même toujours ce moment de précarité qu'il est plus ou moins facile à vivre. Parce que lorsque vous sortez d'école, même lorsque vous êtes diplômé, après, pour trouver du travail, c'est compliqué. Et fatalement, lorsque vous n'avez pas derrière une famille qui peut vous aider à payer votre loyer, vous vous précipitez un peu sur le premier job venu. Et à mon sens, c'est ça aussi qui empêche l'accès aux rédactions des jeunes journalistes qui ont un parcours divers et un autre regard. Et à mon sens, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et je dis ça très tranquillement. Nous, à Mediapart, c'est une réflexion qu'on a engagée parce que il n'y a pas suffisamment de diversité. Et on le voit, enfin, c'est visible à l'œil nu. Vous prenez un journal, vous regardez les signatures, vous avez compris.
Ariane Chemin, je vous voyais tout à l'heure l'évocation de ce futur ou peut-être pas conseil de déontologie. Levez les yeux, ça n'avait pas l'air d'être quelque chose de...
Oui, non, je ne suis pas très pour ce conseil, mais c'est vrai que sur le journalisme, sans parler de formation, l'idée qui voudrait qu'il faille qu'on soit absolument forcément très cultivé pour être journaliste, parce que je l'ai lu aussi ce week-end, où il fallait absolument être bac plus 6, ça c'est vrai que c'est agaçant. Et ce qui est intéressant, mais Faïsa, elle est passée par le Bondy Blog, elle voit ça. Je me souviens quand il y a eu les premiers blogs, il y avait ce même débat que celui qu'on tient absolument aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que le blog, c'est du journalisme. Est-ce que c'était déjà les mêmes débats qui prouvent que le journalisme est une matière vivante, et c'est ça qui est intéressant, mais qui prouve aussi qu'il n'y a pas de cursus formé. La première qualité d'un journaliste, quand même, c'est pas d'être très cultivé, même si c'est quand même d'être curieux.
Pablo Ecuel, puisque vous avez mentionné le fait que vous donnez des cours de journalisme à Vichy, c'est à l'université.
Oui.
Un de vos élèves vous pose la question, qu'est-ce qu'un vrai journaliste? Vous lui répondez quoi?
Un vrai journaliste, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Je pense que c'est pas évident de répondre. Un vrai journaliste, c'est celui qui est curieux, bien sûr.
Et qui pose cette question aussi, en fait.
Et qui a envie d'apporter de l'information, d'expliquer le monde à son lecteur, de contribuer à ça, quel que soit son rôle dans le média. J'avais envie de dire quand même que la précarité est quelque chose qui est vraiment un problème. Et pour nous, au SNJ-CGT, la lutte contre la précarité est prioritaire par rapport au conseil de presse. Notre précarité aux journalistes, c'est la désinformation des citoyens. Plus on précarise les journalistes, moins l'information est de qualité. Donc ça, c'est quand même...
Ce que vous voulez dire quoi? C'est-à-dire que quand on est un journaliste précaire, on a moins les moyens de fournir une information de qualité.
Bien sûr.
Parce qu'il faut aller plus vite, parce qu'il faut produire plus, c'est ça?
Et l'autre élément important par rapport à ce que vous disiez, l'éducation aux médias. Donner des moyens pour faire de l'éducation aux médias. Le gouvernement est en train de le faire depuis 2015, mais qui a le temps de le faire? Ce sont beaucoup de journalistes rémunérés à la pige et se retrouvent avec des séances de formation qu'ils peuvent avoir ou d'éducation aux médias avec des résidences qui peuvent durer plusieurs mois. Ils ne sont plus rémunérés à la pige, donc ils risquent de perdre la carte de presse. Donc c'est le chat qui se mord la queue. On va faire de l'éducation aux médias avec des journalistes pigistes qui ont peut-être le temps de se donner pour passer du temps dans des résidences et cela peut leur faire risquer de perdre la carte de presse. Donc ça aussi, c'est des réflexions à avoir.
la précarisation du métier, c'est vraiment un phénomène très important aujourd'hui, Alexis Lévrier, ou bien est-ce que ça n'a pas toujours été un petit peu le cas et ce qui a structuré finalement cette profession?
Alors, ça a été longtemps un métier très précaire, et il y a eu quand même à partir de la fin du 19e siècle un certain nombre de conquêtes qui ont permis à ce métier de se structurer, d'acquérir une représentation syndicale, la carte de presse, la charte également, enfin autant de dispositions qui ont permis à ce métier d'exister, d'être plus légitime d'un point de vue professionnel et de conquérir des droits. La carte de presse, c'est d'abord ça, c'est des droits. Et je pense que ça, c'est ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que, mais en fait, il faut l'inscrire plus globalement, parce que moi, je vois l'université, vous savez, c'est la même chose. Il y a une ubérisation du journalisme, mais qu'il y a une ubérisation des profs, ça existe partout, malheureusement. Et le problème, c'est qu'il y a une spécificité du métier de journaliste qui est de rendre compte des faits, et que je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Pablo, quand on est précaire, ça devient beaucoup plus difficile de faire ce travail de manière efficace et de manière complète, sans fabriquer soi-même des fake news.
Vous m'avez pas vraiment dit tout à l'heure, Ariane Chemin, la raison pour laquelle ce conseil de déontologie ou ce conseil de presse n'avait pas forcément vos faveurs.
D'une manière générale, tout organisme de contrôle sur la liberté d'expression, etc., je suis très méfiante. Alors, je connais pas très bien le dossier, mais je suis toujours méfiante. J'ai entendu les arguments pour et contre, et je suis plutôt convaincue par les arguments contre. Ça m'angoisse un peu.
Vous croyez davantage à l'autorégulation de la profession ?
Oui, je pense qu'il faut travailler ensemble. Voilà, c'est vrai, je pense que vraiment ce partage de valeurs aussi, on peut avoir des réactions quand on voit que la profession dérive ensemble. Je pense qu'on peut, l'autorégulation, c'est possible.
Alexis Lévrier, et ensuite Faïsa Zeraoula.
C'est fait quoi en Belgique ? Il y a un conseil de déontologie en Belgique qui a priori servirait d'exemple pour le conseil de déontologie qui va être créé en France. On peut être quand même être rassuré, c'est une instance d'autorégulation précisément, c'est essentiellement des journalistes. Ce qui est inquiétant, mais c'est toujours comme ça en France, c'est que c'est quand même l'État qui, depuis le départ, est à la manœuvre. Ça a été voulu par Françoise Nyssen, puis c'est son successeur Frank Hester qui a continué. Et le politique se mêle toujours de la création d'instances dont il proclame l'indépendance.
Bah, on peut dire aussi que la profession n'avait qu'à s'organiser avant. L'État n'aurait pas dû intervenir.
Le problème de ce conseil, c'est que on connaît pas trop les modalités. On se demande comment une instance va pouvoir réguler les pratiques, je sais pas, de France Culture, de BFM TV, de RMC, de Mediapart, de Libération. Enfin, il y a quand même toute une diversité de la presse qui fait la richesse de l'offre du pays, qui va devoir être régulée par une instance. Et on a vraiment le sentiment que en réalité, quand on ne sait pas trop quoi faire d'un sujet, on crée une instance et puis advienne que pourra, et ça donne l'impression qu'on fait quelque chose. Mais en réalité, c'est pas ça le vrai problème.
Ça, c'est peut-être parce que vous venez de la presse écrite, parce que nous, dans l'audiovisuel, on a le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est une instance de régulation. On a bien fini par s'y habituer. Un tout dernier mot, Pablo Ecuel, je voudrais qu'on termine quand même avec ces 48 heures de la pige à Rouen. Donc c'est
la 9e édition,
fin de semaine prochaine. Il voilà. S'y passe quoi et pourquoi il y a que des pigistes qui s'y réunissent?
Eh oui,
pour parler de quoi?
C'est organisé par l'association Profession Pigiste, qui est une association qui a un très bel état d'esprit. C'est notre slogan, le très bel état d'esprit de Profession Pigiste, qui existe depuis une vingtaine d'années. Et qui a relancé il y a 9 ans, enfin qui a lancé il y a 9 ans l'idée de se retrouver pendant 2 jours pour parler de la profession, parler du journalisme. Cette année, la thématique, c'est mieux piger ensemble. Moi, je vais animer une table ronde sur les actions collectives des pigistes. J'invite quelqu'un de l'association de journalistes belges où justement il y a pas mal d'initiatives. On invite des collectifs de pigistes du monde. Et Spartacus de Radio France, et une spécialiste universitaire qui a travaillé longtemps sur les pigistes, Clémence Aubert-Tarbi. Donc c'est à Rouen, on a fait un peu le tour de France.
Ouais, et puis on va mettre le lien sur le site pour celles et ceux qui...
Et le 4 juillet, l'anniversaire de la loi Cressard, qui fait que les journalistes rémunérés à la pige sont journalistes professionnels.
Eh ben merci à tous les 4 d'avoir participé à cette discussion. Faïsa Zeraoula, Ariane Chemin, Pablo Ecuel et Alexis Lévrier. Alors les références des ouvrages des uns et des autres Et les liens vers vos publications, c'est sur notre site franceculture.fr, la page du grain à moudre, page depuis laquelle vous pouvez réécouter l'émission et la télécharger. Un grand merci à toute l'équipe du grain et en particulier à Cyril Marchand, notre excellent stagiaire qui vole vers de nouvelles aventures à partir de demain. Du grain à moudre, c'est une émission réalisée par Peyre et Legras avec à la prise de son ce soir Jacques Hubert et dans 3 minutes Arnaud Laporte et la dispute.